J'enrage.
J'enrage, lilloise et féministe.
J'enrage, c'est moi et peut-être vous.
J'enrage est votre radio féministe lilloise, sur les ondes et dans vos cœurs, un dimanche par mois de 14 à 15 heures.
Sur RCV 99 FM.
J'enrage.
J'enrage, s'engage.
J'enrage, le courage en intraveineuse.
J'enrage, galaxie féministe, vous invite dans son no man's land.
J'enrage, la claque du dimanche après-midi.
Soyez là.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Salut. Alors, vous êtes bien sûr j'enrage, on est le dimanche 6 mars, il est 14h, vous êtes avec nous jusqu'à 15h et aujourd'hui, le thème principal de cette émission et de la prochaine, ce sera sur la violence des femmes. Alors rapidement, on va, Julia et moi allons revenir sur la question du sport comme territoire de réappropriation et comme imaginaire associé à la violence. Ensuite, Diane reviendra sur Virginie Despentes. Suzanne présentera un livre qui s'appelle La Marquise de Sade. On aura une rubrique ciné faite par Mathilde qui est avec nous par la pensée parce qu'elle travaille aujourd'hui, mais nous avons un enregistrement. Et puis on terminera par trois petits volets sur la violence politique ou révolutionnaire. Voilà, voilà. Je laisse la parole tout de suite à Diane qui va faire une intro de cette thématique.
Voilà. Donc d'abord, c'est une thématique assez complexe, assez difficile à penser. D'abord, on peut revenir sur la notion... Vous m'entendez ? D'abord, on peut revenir sur la notion même de violence qui est assez difficile à penser en soi. C'est-à-dire que ce qui est violent, c'est d'abord ce qui est considéré comme violent. Il n'y a pas de définition en soi de la violence, mais toujours un regard posé sur la violence. Et ce regard, il est toujours situé. C'est-à-dire qu'il s'insère dans un environnement social, sociétal. Et accessoirement, il sert aussi parfois un agenda politique, par exemple capitaliste ou sexiste. Donc voilà, là sur la violence des femmes en particulier, on peut dire quand même qu'il y a un tabou autour de ça et se demander qui l'entretient et pourquoi. Donc on a décidé de parler de la violence des femmes, pas pour essentialiser la question ou pour envisager une violence qui serait typiquement féminine, mais au contraire pour déconstruire le mythe d'une femme qui serait naturellement non violente, voire aviolente, c'est-à-dire complètement dénuée de la capacité à être violente. Donc voilà, quand même, la violence est majoritairement considérée comme un attribut masculin. Et les femmes violentes sont souvent jugées comme étant contre nature. C'est-à-dire qu'on peut remarquer que la violence des femmes, elle passe beaucoup moins que celle exercée par les hommes. Elle étonne, elle choque, elle suscite l'indignation beaucoup plus en fait que ce soit d'ailleurs dans la réalité ou dans la fiction. Ça choque beaucoup plus quand c'est une femme qui est violente. Et les femmes violentes sont aussi souvent considérées comme des exceptions qui confirment la règle en fait, comme si c'était toujours vraiment résiduel. Donc voilà, dans cette idée de s'intéresser au regard porté sur la violence, on peut dire qu'il y a en général deux manières d'envisager la violence des femmes. Donc envisagé par l'opinion publique, par les médias, par les œuvres de fiction, enfin par plein de discours en fait majoritaires. Donc voilà, donc deux manières d'envisager la violence des femmes qui peuvent paraître opposées a priori, mais qui en fait concourent au même but. Donc soit cette violence elle est invisibilisée, minorée, niée, donc c'est quand même ce qui est le plus fréquent. Soit elle est hypertrophiée, donc c'est-à-dire soit pour dire à quel point c'est rare une femme violente, du coup on pointe ça du doigt avec insistance. Soit pour dire, donc c'est un peu plus compliqué, mais soit pour dire que les femmes, elles sont naturellement, hormonalement, dans une forme de démesure qui peut conduire à de la violence, en fait. Typiquement, on peut citer l'exemple de l'hystérie, qui est une pathologie qui, à la base, est considérée comme strictement féminine et qui conduit à une forme de violence, en fait. Donc, voilà. Donc, souvent, avec ces stratégies-là, ce regard-là sur la violence, ça produit une déresponsabilisation des femmes auteurs de violence. Voilà, les femmes, souvent, on dit qu'elles ne sont pas responsables de leurs actes quand elles sont violentes, beaucoup plus que les hommes, même au niveau juridique, en fait, mais en les jugeant folles ou sous l'emprise d'un homme, par exemple, aussi. Donc, ça permet d'ôter aux femmes leur statut de sujet, en l'occurrence dans l'acte de violence, ou de sujet politique, quand c'est le cas de violence de groupes politiques qui se revendiquent violents, par exemple. Bon, je pense qu'on verra ça après dans l'émission. Je voulais aussi remarquer un autre phénomène qui révèle le fait que la violence des femmes, elle est perçue comme anormale. C'est par exemple le fait de considérer qu'il y a une explosion de la violence des femmes, que ce serait un phénomène nouveau, alors que c'est historiquement faux. Il y a toujours eu des femmes violentes, voire, l'histoire de la violence des femmes, elle est pas linéaire. C'est-à-dire que, donc encore une fois, c'est une question de regard social et historique. Il y a toujours un regard différent selon les époques. Et il y a certains types de violences féminines qui étaient plus acceptées à certaines époques qu'aujourd'hui, en fait. Donc on peut vraiment pas parler d'une acceptation de la violence des femmes qui évoluerait au fil de l'histoire, quoi. C'est beaucoup plus entrecoupé que ça, quoi. Voilà. Donc, puisque la violence des femmes, ce qui est important, c'est d'étudier le regard là-dessus et les discours produits là-dessus, on peut dire qu'il y a une dimension performative dans le discours porté sur la violence des femmes. C'est-à-dire que dire qu'elle n'existe pas, c'est aussi qu'elle est très, très, très minoritaire. C'est aussi permettre, d'une part, qu'elle ne se développe pas, donc ça peut quand même être une menace. Et c'est établir un ordre social des sexes essentialiste où la femme, elle serait complètement dépossédée de sa capacité à être un sujet d'acte de violence. Parler de la violence des femmes, la penser, l'historiciser et la politiser, ça permet de produire un contre-discours qui, en soi, rien qu'en tant que discours, en fait, déconstruit, d'ailleurs, au-delà de la simple question de la violence, la différence présumée entre les sexes. Donc, je pense qu'on pourra revenir aussi au fil de l'émission un peu là-dessus. Donc on peut dire que le tabou autour de la violence des femmes, il est principalement produit par une pensée essentialiste et plutôt antiféministe. Mais, alors là c'est un peu un paradoxe de la question qui rend la question épineuse, c'est que ce tabou, il a aussi été entretenu par certains mouvements des débuts du féminisme, dans le contexte français en tout cas, parce que je connais pas les autres trop contextes, donc je m'aventure pas là-dedans, mais comme le MLF par exemple, et même par beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui encore en fait, c'est un sujet qui est difficile à aborder. Encore plus, je pense, à l'époque du MLF, parce que la pensée autour du genre, elle était moins développée, donc je pense que ça complexifiait la chose. Mais voilà, donc à l'époque, la priorité, comme c'était de faire reconnaître les violences faites aux femmes, c'était plus stratégique ou plus facile, en tout cas, de nier la violence des femmes, ou même, voire, de dire que les femmes étaient naturellement, essentiellement non-violentes. Donc voilà, après, on peut aussi comprendre ce réflexe-là, parce que dire qu'il y avait des femmes violentes, ça pouvait très très facilement être récupéré par des antiféministes pour justement minorer en fait les violences faites aux femmes, dire que les femmes aussi étaient violentes, etc. Donc voilà, c'est clair que c'est quelque chose de compliqué, mais qui, pour moi, je pense, surtout aujourd'hui, ne doit pas être nié pour autant, et bah, c'est pour ça, je pense, qu'on a décidé de faire une émission là-dessus. Mais voilà, en fait, de parler de la violence des femmes, ça donne une mauvaise image des femmes et du féminisme. Et il y a un autre risque aussi, je pense, c'est d'être renvoyé à la seule stratégie d'utiliser les armes de l'oppresseur. Alors que je pense que la question, elle est plus complexe que ça. Voilà, après, donc, quand même pour préciser, même si je pense que c'est un peu évident, c'est pour nous, dire que les femmes sont aussi actrices de violence, ça revient pas du tout à minorer les violences faites aux femmes, qui sont, sans commune mesure, beaucoup plus nombreuses que l'inverse. Ça, c'est clair aussi, sans nier le fait que les femmes puissent être violentes, ni à fétichiser la violence ou à la valoriser en soi. Voilà, voilà, donc c'est un peu les enjeux généraux, en tout cas que moi j'ai relevé sur ce sujet-là. Et il y a deux émissions là, de Jean Rage qui seront consacrées à cette thématique, donc ce sera en deux volets. L'émission d'aujourd'hui, elle est consacrée à la violence des femmes comme source d'émancipation, comme outil d'affirmation du sujet. Voilà, bon, après on verra que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, je considère que c'est pas forcément à proprement parler la violence qui est source d'émancipation. Si on met à part la question de la violence politique qui est... Voilà, c'est un sujet à part, c'est un sujet complexe. Je pense que Julia l'abordera peut-être. Mais c'est plutôt le fait de la penser qui est en soi une façon de déconstruire l'ordre de la domination homme-femme. Donc c'est changer le discours sur la violence des femmes qui peut surtout être émancipateur, à mon sens. Je voudrais, c'est un peu anecdotique, mais je trouve que c'est intéressant par rapport à notre collectif. Vous avez peut-être vu sur notre site ou sur Facebook, je ne sais pas si c'est encore sur le site.
Oui, le Facebook, ouais.
Ok, il y a Suzanne et Amandine qui ont fait un teaser vidéo À la base, c'était un teaser vidéo qui était pensé pour Genrage en général, en fait, pas sur la thématique de la violence des femmes. Et en fait, donc, les filles ont utilisé un imaginaire féministe violent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des extraits de films comme Baise-moi, Thelma et Louise. Donc voilà, on voit en gros plein de meufs avec des guns. Et on en a parlé un petit peu, et en fait c'est marrant parce qu'à la fois il y a un truc hyper jouissif dans cet imaginaire-là, un truc qu'on a envie de se réapproprier en tant que féministe, et en même temps on s'est quand même dit, ah ouais, c'est peut-être un peu chelou qu'il y ait que des femmes en armes, et ça peut aussi être compliqué de montrer ça. Donc je pense que ça, voilà, c'est anecdotique, mais ça révèle assez bien, je pense, les enjeux de ce sujet-là. Voilà, sinon pour sur la question de l'émancipation par la violence, par l'évocation de la violence et par le fait de penser la violence des femmes, il y a donc déjà le fait de rendre visibles des femmes violentes dans le cadre de mouvements révolutionnaires violents, donc politiques, ça permet de redonner le statut de sujet politique aux femmes dans ce type d'action, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc ouais, les femmes, elles peuvent être violentes, pas pour imiter leurs petits copains ou par des raisons, mais parce qu'elles veulent défendre un territoire menacé, lutter contre des injustices sociales ou sexistes, voilà. C'est pas l'apanage des hommes. Après, on peut aussi se poser la question d'une forme de légitimité, d'une certaine violence politique face à un État qui est ultra-violent, que ce soit symboliquement ou concrètement. Mais voilà, ça, je laisserai, je pense, la place à Julia, peut-être pour l'évoquer tout à l'heure.
Et Anaïs.
Voilà, donc Julia sur Rotezora. Et Anaïs sur Action Directe et les suffragettes. Les suffragettes anglaises. Donc voilà, ça sera un peu Julia et Anaïs qui aborderont ça. Sinon, il y a aussi l'idée, dans cette émission, que le fait de performer, de montrer la violence des femmes dans des fictions, donc que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma, ça permet aussi de retourner la construction sociale d'une domination sexiste, qui passe aussi énormément par un imaginaire où l'homme serait estimé violent par nature et la femme inoffensive et victime par nature aussi. Et donc montrer une violence effectuée par des femmes dans des fictions, ça permet de donner une image puissante des femmes, ce qui est différent aussi, je pense, d'une image dominante. Enfin, je pense que c'est deux notions à séparer aussi, puissance et domination. Mais
carrément.
Bref. Et ça leur permet de déconstruire ou de renverser le discours de la peur, qui peut aussi être hyper paralysant, et de sortir de statut imposé de victime. Parce que en fait, les mentalités, elles sont aussi créées par des récits et des fictions, et c'est important de le retourner. Donc voilà, je pense que montrer une violence féminine dans la littérature et le cinéma, ça peut être envisagé dans une perspective féministe. Donc on le verra avec Suzanne qui parlera de La Marquise de Sade de Rachilde, et avec moi qui parlera de Virginie Despentes, et plus particulièrement de Baise-moi.
Puis Mathilde pour le cinéma.
Pardon, comme elle n'est pas là, oui, mais Mathilde sur le cinéma, donc avec un panorama, je crois, un peu de la violence des femmes dans le ciné. Voilà.
Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Diane, sur la nature inoffensive et des femmes, je vais juste inclure ça, moi, dans le sport, pour qu'on entame directement cette thématique. Alors, je m'appuie sur un article... sur Violette Maurice, pardon, qui est une femme du 19e siècle, qui est française du 19e siècle, et très rapidement, qui est une femme omnisport et qui avait des capacités physiques qui lui permettaient de concourir dans la catégorie masculine. Elle a participé au mouvement de développement de la Fédération française du sport féminin dans les années 1915-17, par là. Et elle est généralement reconnue pour avoir été une collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale, et d'avoir torturé, tué des personnes et aussi des femmes. Et, sauf qu'en fait, il n'y a aucune preuve de ça, il n'y a pas vraiment d'enquête non plus. Il y a eu une biographie écrite par un historien, mais qui ne cite pas ses sources du tout, et qui est assez, qui est assez bizarre, qui présente ça comme étant historique, mais qui pose vraiment une question.
La question de l'histoire... Enfin, de comment tu crées l'histoire, comment tu rapportes des faits historiques sans documents, sans preuves.
Ouais, c'est ça, qui s'appuie un peu sur rien. Et en fait, dans cet article, il y a une phrase qui m'a un peu marquée et qui sert d'introduction à ma rubrique. C'est à un moment, il est écrit « Elle pratique aussi des sports violents qui exigent de la force physique pure, comme la boxe, le lancer de poids et le javelot. » Et en fait, cette phrase, elle m'a interrogée pour deux raisons. C'est que qu'est-ce qu'on appelle des sports violents? Et c'est violent pourquoi? Parce que le lancer de poids ou le lancer de javelot, ça peut être des sports qui sont considérés violents pour le corps, pour l'énergie et la puissance physique que ça demande dans le lancer. Sauf que la boxe, elle est associée à un autre imaginaire violent et de violence. c'est que c'est pas tant violent pour le corps, c'est que c'est un sport intrinsèquement violent, enfin perçu comme étant intrinsèquement violent, parce que c'est un sport qui donne et qui fait porter des coups sur une autre personne. Et donc, je vais m'arrêter sur la question de la boxe, justement, dans cette rubrique, parce que, justement, la boxe, plus que d'autres sports de combat qui sont généralement associés aux arts martiaux, ou plus que le rugby, qui est pas vraiment, qui est un sport de contact, mais qui n'est pas considéré comme un sport de combat, la boxe, vraiment, elle est refusée aux femmes, parce que, justement, c'est un sport de combat, c'est un sport qui est censé... qui est reconnu un peu comme un catalyseur, un sport populaire qui permet de catalyser la violence de certains jeunes garçons, sous-entendu, ce qui est aussi problématique, mais c'est pas le sujet, et qui justement qui comme tous les sports fixe des cadres et des limites à cette violence-là. Donc c'est pour ça qu'il sert de catalyseur et qui est refusé aux femmes parce que par nature, les femmes ne devraient pas avoir besoin de cadrer et de limiter leur violence parce qu'elles sont inoffensives,
aviolentes,
etc. Et qu'il y a aussi tout ce truc de les femmes, on ne parle pas de la violence des femmes, ça permet d'invisibiliser la violence des femmes. On reviendra là-dessus avec le, je pense, en tout cas dans la discussion sur la violence politique. Donc je m'appesantis pas dessus, mais c'est vraiment la boxe. Une femme qui fait de la boxe, elle est tout de suite perçue comme au mieux énervée ou féministe. Ou alors, au pire, elle est reconnue comme étant déviante parce que elle a une violence à exprimer et à essayer de cadrer. Et d'une manière générale, et ça aussi, on en reviendra, mais plus dans le deuxième volet, je pense, le fait que les femmes violentes soient beaucoup plus médicalisées que
les hommes violents.
Que les hommes violents, ouais, carrément, est plus médicalisé qu'éventuellement jugé, par exemple, ou pris dans le système médical plus que judiciaire. Donc voilà, c'était... On est un peu pris par le temps, alors j'accélère. Julia, je te laisse la parole pour cette rubrique aussi.
D'accord. Eh bien, merci. Merci à Diane pour cette belle introduction. Merci à Naëlle. Du coup, effectivement, moi, je vais plus m'attarder sur donc, le rapport au sport. Cet article... Alors, cet article, il vient d'un livre qu'on n'a peut-être pas parlé. Il s'appelle « Penser la violence des femmes » de Colleen Cardy et de Geneviève Prouvost. Et donc, c'est un livre qui nous a beaucoup inspirés pour ces émissions, pour les deux émissions qui vont arriver. Et donc là, l'article plus particulièrement sur le rapport à la réappropriation par le sport de son corps, ou même juste le fait d'aimer faire du sport en tant que femme. Moi, j'avais envie un peu de m'attarder sur des récentes affaires aujourd'hui. Alors déjà, par exemple, il y a pas mal d'exemples différents que j'aurais envie de citer, qui montrent que vraiment les femmes dans le sport, elles atteignent un espèce de danger du rapport à cette espèce de binarité qu'on nous impose dans la société, avec des côtés les femmes, d'un côté les hommes, avec des stéréotypes très, très marqués. Ben là, le fait que les femmes elles puissent avoir des performances sportives identiques, voire supérieures à des hommes, tout d'un coup, il y a un gros bouleversement qui se passe et c'est vraiment, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de problématique qui est posé par les fédérations sur, par exemple, donc les affaires récentes que je voulais pointer du doigt, c'est par exemple dernièrement, là, il y a une jeune sprinteuse indienne qui s'appelle Duti Chand, qui a été interdite de compétition pour un taux de testostérone trop élevé. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a une... vous avez dû vous rappeler peut-être en 2009, il y avait cette personne d'ailleurs qui est citée dans l'article que j'ai récupéré là, Santi Sudarajan et Pinky Pramanik. Ça, c'est des indiennes aussi, mais il y avait une femme sud-africaine dont le nom m'a échappé. Je ne sais plus où je voulais noter. Et Caster Semenya. Caster Semenya, qui est aussi une sprinteuse sud-africaine, qui a donc été interdite de compétition en 2009 parce qu'elle avait un taux de testostérone trop élevé et qu'en gros, en remettant en cause sa féminité, le fait qu'elle soit une femme. Donc il y a un test qui a été mis en place pour prouver la féminité des femmes qui ont un taux de testostérone considéré comme trop élevé, les femmes sportives. Donc un test qui est extrêmement humiliant. assez dévastateur psychologiquement, où, où ta famille va devoir répondre à des questions comme est-ce que c'est une fille ou un garçon, est-ce qu'elle a des règles, ce genre de choses assez... et sans, j'imagine pas, et il ne parle pas là par pudeur, j'imagine, de l'examen physique, mais qui doit sûrement avoir lieu aussi, pour juger si ton corps est un corps féminin ou un corps masculin. Et du coup quand même... le seul justification, par exemple, de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, c'est alors une citation que moi je trouve assez parlante de bêtises et justement de révélatrice de ce qui accroche, de ce qui dérange. C'est très simplement, cette réglementation, elle est basée sur une expertise internationale approfondie tant en matière de sciences médicales que d'éthique. Alors voilà, tu te débrouilles avec ça. Tu te débrouilles avec ça. Voilà.
Ouais. Je sais pas si on peut rebondir, mais c'est parce que Violette Maurice, je sais pas si vous alliez en reparler, mais elle s'était fait aussi disqualifier parce qu'elle se comportait comme un homme parce qu'elle s'était fait couper les seins.
Exactement.
Donc c'est un peu le même genre de.
Mais c'est ça. Elle, c'est d'ailleurs, c'est complètement lié au fait qu'elle se soit coupée les seins et qu'elle était considérée comme lesbienne.
C'est ça.
Sur le fait que, bah, du coup, elle a été interdite par la Fédération française féminine de sport là.
Du sport féminin, c'est ça, la FFSF.
Voilà. Ouais, du coup, je crois qu'il y avait un trophée qui lui avait été refusé ou quelque chose comme ça.
Ouais. Elle a jamais pu, reprendre le sport comme en tant que compétition. D'ailleurs, elle a ouvert un garage après. Et juste pour finir, et après je me tais. J'ai juste envie de rappeler que par exemple, les basketballeuses de la Women NBA, qui a donc des super basketball, des super sportives de haut niveau, donc de l'équipe des États-Unis. Elles sont obligées, c'est-à-dire que c'est dans leur contrat, elles sont obligées d'avoir une apparence féminine pour pouvoir être intégrées à l'équipe. Donc, lesbophobie, bonjour. Ou transphobie, je ne sais pas, on peut mettre beaucoup de choses derrière, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très, très problématique aujourd'hui et qu'on voit bien que le sport, les femmes dans le sport questionnent très, très fort les normes et les stéréotypes qu'on nous enseigne. Et personne ne veut... Voilà.
Ça montre à quel point le sport fonctionne vraiment comme une institution de contrôle binaire des genres, quoi. Enfin, même de production, en fait. Production de genre, quoi. Enfin, c'est... Ouais.
On va peut-être juste faire une pause musicale avant de passer à la suite de cette émission. Alors, on va écouter Fréhel, qui nous chante la môme catch-catch. Vous allez voir, c'est assez parlant.
Des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a un dans la salle aujourd'hui qui vienne ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. J'ai les pieds au mur comme un échalant, le grand écart et je crache à 15 pas. Je vois du gros qui touche, c'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement, bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au car, il y est que toi, pour pas le savoir. C'est moi le môme catch-catch. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. J'fais les pieds au mur comme un échalot, le grand écart et je crache à 15 fois. Je bois du gros de jeu, c'est moi la môme cache-cache.
J'enrage le courage en intraveineuse.
Vous êtes toujours sur J'enrage, il est 14h25, nous ne sommes pas trop en retard encore, tout va bien. Et vous êtes aussi sur RCV, hein, 99FM, on a oublié de le dire tout à l'heure. Voilà, donc on va continuer cette émission sur la violence des femmes avec Suzanne.
Ouais, pour entamer notre mini-volet avec Diane et Mathilde sur l'émancipation et fiction, on va dire en gros. Donc je vais rentrer directement dans le sujet. En fait, moi, je vais parler d'un bouquin, d'un livre en particulier qui a été publié à la fin du 19e, à la période, on va dire, qu'on a appelée décadente, quoi, qui s'appelle La Marquise de Sade. Donc je pense qu'on entend l'inspiration sadienne assez facilement, je pense. Et qui a été écrit et publié par Rachild, qui est Rachild, en fait c'est un pseudonyme, hein, qui est un pseudonyme adopté par Marguerite Emery, qui l'a choisi pour signer son œuvre, et qui est un pseudonyme masculin. D'ailleurs le nom, en fait son nom, ça n'est qu'un des codes de masculinité qu'elle s'est approprié, qu'elle s'approprie. Elle se qualifie elle-même d'homme de lettres. Et elle adopte les codes vestimentaires masculins, elle s'affiche comme misogyne notoire. En fait, son antiféminisme qu'elle a développé dans un pamphlet intitulé « Pourquoi je ne suis pas féministe » cible explicitement les luttes des femmes de son époque pour le droit de vote, ou encore l'amour libre par exemple, c'est-à-dire la revendication des relations amoureuses hors mariage. Ce qu'elle méprise chez la femme, c'est la femme telle qu'elle a été socialement construite, faible, mutilée et passive face aux désirs des hommes. Donc en fait, quand elle dit qu'elle méprise les femmes, il faut aussi entendre en fait un rejet des normes de féminité. Alors que la maternité est à la fin du 19e siècle portée au nu, sacralisée par l'éternel féminin, Rachild, elle, s'inscrit en faux de cet idéal maternel et elle rejette la maternité et met en scène, dans son œuvre des figures maternelles, non normées, enfin cruelles. Cette utilisation d'une posture antiféministe comme légitimation de la transgression des normes de genre dit, il me semble, enfin c'est mon impression, dit quelque chose des négociations auxquelles le discours des femmes qui rejettent la féminité doit se plier pour être audible. En fait, les récits de violences féminines et dans notre cas la représentation littéraire d'une femme sadique sont sujets à de telles négociations. Le sadisme de Marie Barbe, qui est l'héroïne du roman de La Marquise de Sade, est étroitement associé à la transgression des normes de genre. Si le sadisme est déjà perçu de manière générale comme une aberration sexuelle, les psychiatres et sexologues de l'époque en ont fait une pratique sexuelle typiquement masculine. Rachild inscrit d'ailleurs Marie Barbe dans la lignée masculine du Marquis de Sade, hein, comme l'indique le titre, dont elle dresserait un portrait de genre inversé. Hein, elle le met au féminin. Cette histoire d'une femme sadique, attirée sexuellement par la vue du sang des hommes et à la recherche continuelle de scènes fantasmatiques ou réelles de carnage et de meurtre, confirme à certains égards l'hypothèse d'un récit de vengeance à travers le renversement de la domination masculine. La première scène du livre conforte cette hypothèse traumatique. Marie a 7 ans lorsqu'elle est témoin de l'égorgement sanglant d'un bœuf à l'abattoir, tué, on le saura plus tard, dans le but de récupérer du sang pour la mère de Marie qui en boit quotidiennement pour traiter sa maladie qui paraît une maladie incurable. Marie, lorsqu'elle est enfant, est la spectatrice régulière de la violence légitimée des hommes, qui s'exerce contre les animaux, les enfants et les femmes. Régulièrement fouettée, elle voit son chat adoré et sa portée tuée par des adultes. Le portrait dressé par Rachild de la société de son époque et de la place différentielle des hommes et des femmes dans cette société est terrible. Elle découvre une société foncièrement oppressive dans laquelle les filles sont considérées comme des fardeaux, et ce dès la naissance, par des parents que la naissance d'un garçon, futur héritier et sexe fort, aurait ravi davantage. C'est d'ailleurs en raison de son genre, par exemple, que Marie est rejetée par son père. Les femmes, et en particulier les figures maternelles, entretiennent ces structures de domination. Marie ne reçoit, enfant, que remontrances, indifférence et violence de la part de son père, mais aussi de sa mère et de sa tante. Aimer, c'est souffrir, retiendra-t-elle dès lors.
Marie deviendrait donc cet être cruel façonné initialement par la violence des adultes et spécifiquement des hommes. Pardon, j'ai employé une petite expression très... Sa cruauté est d'abord froideur et indifférence. Froideur à l'égard de la mort de son petit frère, qu'elle encouragera joie face à la mort de son oncle, un vieillard qu'il adorait et que l'aurait pris plaisir à ruiner et à psychiquement détruire. Elle va jouir également de la souffrance de ceux qu'elle torture, pour beaucoup mentalement, en se refusant constamment à eux tout en excitant délibérément leurs désirs. Elle finira par empoisonner son mari, passera des nuits à faire saigner son amant et finira par écumer ses nuits dans des quartiers malfamés en quête de violence, de meurtre et de bataille. Mais... Ouais, vous voyez, c'est bien violent, on est dedans là.
Mais l'hypothèse... Ça a été adapté en film, ça, c'est trop... ça a l'air bien.
Il y aurait de quoi, je pense. Je sais pas si ça a été adapté en film, c'est une bonne question, je me suis pas renseignée. L'hypothèse acquise à bonne entendeuse.
Il faut écrire le scénar, Julia. Voilà. Prochaine activité de Genrage.
Bien sûr. Mes heures perdues, pardon.
Mais du coup, là, mon hypothèse vengeance, enfin ma lecture vengeance, hein, elle est un peu réductrice parce que bon... Marie, elle est sadique, donc elle n'est pas cruelle par vengeance, mais parce qu'elle y prend plaisir. Marie, elle se rapproche plus du monstre que d'une féministe. J'utilise ce terme parce que l'auteur l'emploie elle-même. Hein. La violence gratuite qu'elle exerce est une aberration et définit toute tentative de rationalisation. Cela dit, l'explication médicale est une des voies explorées par Rachilde. Par exemple, la taille de son pouce, à en croire son oncle, ferait d'elle une criminelle née. Il essaie de l'étudier, d'étudier son corps. Le spectre de l'hystérie n'est pas loin. Hein, monnaie courante à l'époque, cette catégorie psychiatrique hante le roman et semble servir de référent psychiatrique pour évaluer un cas hors norme. Mais en fait, du coup, je dirais... Alors, est-ce que, finalement, Marie-Barbe, icône féministe ou pas ? C'est une figure assez complexe, hein, qui, justement, je pense, ne peut pas être pris dans le filet féministe complètement, puisque, donc, déjà, le sadisme, il faut voir quand même que ce personnage fait face sans scier des yeux. Alors... à toutes les violences les plus trash qu'elle peut faire subir aux hommes et qui ne s'inscrivent pas du tout dans un cadre consensuel des codes SM, hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'elle n'a que faire du consentement de ses victimes et elle rejoint la lignée Marquis de Sade, Pasolini, etc., qui est d'ailleurs une lignée principalement masculine. Cela dit, elle est aussi une révoltée, hein. Elle fait face sans scier des yeux aux conventions, aux mœurs de l'époque, elle affiche son amant sans complexe, elle ne craint pas la honte sociale, etc. Donc c'est une figure de la marginalité et une figure puissante à cet égard. Mais après, bon, aussi, elle reste dans un axe binaire dominant-dominé, c'est-à-dire que sa violence, elle est à l'encontre des hommes, mais du coup, elle en dépend aussi, elle dépend des hommes. D'une certaine manière, elle dépend aussi de... Parce qu'elle jouit de leur souffrance, donc elle a besoin d'eux aussi, d'une certaine manière. Du coup, cette violence retournée contre l'oppresseur, elle est aussi dans un schéma de servitude, elle reste dans un schéma de servitude, et non pas complètement... et pas d'émancipation, véritablement, en fait. Et je dirais pas, parce que du coup on va parler de jouissance de jouissance politique, et là du coup Diane, je vais te laisser parler, mais justement t'évoquais tout à l'heure la question de la jouissance féministe à avoir des meufs badass, boulets des mecs, parce que on en a marre que toujours les meufs elles se fassent elles se prennent je sais pas combien de violences dans les films, etc. Mais là je dirais, quand on lit ce livre, on est quand même... Enfin, moi, je dirais pas que j'ai pris mon pied. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Franchement, c'est assez chaud, quoi. Cette violence, cette cruauté, elle dépasse quand même le cadre justifiable du récit de vengeance féministe. Ouais. Et du coup, on est dans un truc, je pense, un peu... Enfin, voilà. Je pense que c'est bien aussi de préciser un peu en quoi on peut être dedans et pas dedans en même temps.
Complètement, mais... Donc, ouais, je sais pas si t'as fini, de développer, mais... Moi, quelque part, j'ai un truc un peu similaire avec Despentes, je pense, sur Baise-moi, où justement, Despentes, elle en parle comme d'un... Enfin, elle dit qu'il y a, pour beaucoup de lectrices, ça a été un feel-good book, un livre qui fait kiffer, quoi, qui te fait te sentir bien. Et je comprends carrément ce qu'elle veut dire, et en même temps, moi, j'ai aussi eu du malaise, un malaise, en fait, à l'égard de scènes de domination, d'humiliation sexuelle de femmes par rapport aux hommes, quoi. Donc, c'est clair que c'est hyper complexe, je pense. C'est pas toujours le kiff non plus, quoi. Mais ouais, du coup je peux entamer sur moi ce que j'avais à dire un petit peu sur Despentes.
Ouais, et puis ouais. Du coup on pourra peut-être en parler si on a le temps après.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses communes avec Rachilde, en fait, je pense, dans les enjeux du bouquin.
Il y a la rubrique de Mathilde après, on pourra tous refaire un retour dessus.
Ouais,
mais il y aura la rubrique de Math après.
Ouais.
Je pense qu'on va être serré au niveau du temps.
Ouais, on sera faire un retour dessus. Pour faire des retours, ouais.
Mais je vais faire vite pour Despentes, mais. C'est vrai que c'est un peu foisonnant, cette émission.
C'est ça.
Mais ouais, alors moi du coup, sur Dépendre, j'ai surtout travaillé, enfin travaillé, c'est un grand mot, j'ai surtout, je vais surtout
mais me si, pencher on travaille,
sur...
Mais si, on travaille,
j'imagine, qu'est-ce que tu crois là. Je suis surtout penchée sur donc le film, non pas le film justement, le livre, Baise-moi, qui a été adapté en film. Donc, et aussi un peu sur King Kong Theory, donc pour expliquer, King Kong Theory, ça a été publié en 2006. Donc c'est plus un essai, théorique c'est un grand mot, c'est plutôt un manifeste quoi, plutôt manifeste, autobiographique, donc de Virginie Despentes. Et Baise-moi, c'est une fiction, donc c'est le premier roman qu'a publié Despentes en 93. Elle a fait un film avec Coralie Trinity, donc, qui vient du milieu du cinéma porno, en 2000. Je l'ai déjà dit. Voilà. Et donc, le film, je pense que voilà, pas mal des auditrices, auditeurs doivent être au courant que ça a été un gros scandale, qu'il a été interdit en salle, que même juridiquement, ça a soulevé plein de choses. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est important en même temps. Parce que voilà, en fait, il y a eu vraiment des réactions critiques sur le film et même sur le livre, qui montrent en fait, parce que des films avec des mecs violents, il y en a quand même plein, et en général on les interdit pas en salle. Après il y avait aussi le côté, c'est en fait comme c'est les deux actrices viennent du milieu du X et la réalisatrice, une des réalisatrices aussi, c'est aussi qui posait question. Mais bon, en fait justement ce que dit aussi Despentes, c'est que plus que le côté univers porno, c'est le fait que ce soit des femmes qui soient violentes qui a vraiment en fait posé problème à la critique et à l'opinion publique. Donc, parce que la brutalité masculine, c'est ok quoi, c'est relativement accepté. La brutalité féminine, elle est un peu une espèce de fascination-répulsion quoi. Enfin, c'est à la fois horrifiant et fascinant, mais bon, surtout horrifiant quand même. Donc Baise-moi, c'est l'histoire de deux personnages femmes, donc Nadine et Manu. Déjà deux personnages qui correspondent pas forcément au canon de la féminité, norme de genre. Donc c'est des femmes qui font du bruit, qui prennent de la place, qui gueulent, qui boivent et tout ça. Et qui sont aussi un peu marginalisées par la société, parce qu'elles sont tous les deux travailleuses du sexe. Donc, enfin, elles travaillent assez vaguement, mais elles travaillent pas énormément. Mais il y en a une qui est pute et l'autre qui a tourné quelques films porno. Donc voilà, ça c'est pour situer un petit peu les deux protagonistes. Et donc, bah, comme tu disais aussi, Suzanne, avec, je crois que c'était un bœuf qui se faisait égorger, c'est ça, dans Rachilde.
Ouais, c'est ça, ouais.
Là, bah, y a une autre, on va dire, scène un peu de... J'allais dire trauma, mais le mot, il est impropre, je pense, mais une scène, en fait, de violence originale à l'égard, là, en l'occurrence, des femmes. Je compare pas les femmes aux bœufs, mais c'est juste pour dire que c'est une première scène de violence, en fait, qui peut être analysée aussi. Enfin, le reste, du coup, peut être analysé comme
la comparaison n'est pas absurde, hein, parce qu'il y a un truc analogique de animaux, enfants, femmes, enfin, des dominés, en fait, un axe dominé, ouais. Donc...
Donc voilà, en gros, le chapitre 8, donc dans Baise-moi, ça montre la scène du viol de Manu, donc une des deux filles, et de Carla, donc qui est un autre personnage, mais qu'on voit plus après, parce qu'elle se fait tuer. Donc c'est une scène de viol assez trash, quand même. Viol avec viol collectif. Mais important, je pense, pour situer un peu Despentes, c'est plutôt des blancs bourgeois. Donc c'est aussi intéressant, je pense, dans la déconstruction. Enfin, voilà, ça lutte aussi contre une forme de cliché raciste détournante dans les cités et tout ça.
C'est ça.
Donc voilà, je trouve que c'est un axe aussi intéressant chez Despentes. Pas trop parler. Voilà, donc il y a cette scène du viol. Donc Manu, elle réagit de façon... Enfin, pas du tout comme Carla, qui dit c'est horrible, qui essaie de se débattre et tout. Manu, on va dire qu'elle a une vision assez différente, quoi. Elle se débat pas et voilà, elle dit que c'est un truc qu'elle accepte, même si évidemment, ça la fait pas du tout kiffer. Mais bon, ça, on pourra développer un peu après avec la pensée de Despentes dans King Kong Theory, qui justement essaye de montrer que l'émancipation féminine, elle est pas univoque. En fait, il y a plein de manières de s'émanciper, notamment face au viol. Enfin, elle rejette en bloc le fait qu'on impose aux femmes d'être des victimes silencieuses et silencieuses et tristes. Elle dit que on peut aussi en fait refuser ce statut de victime qu'on nous donne et se battre en fait. C'est un peu ce qui est montré dans Baise-moi. Je sais pas si c'est clair, ça va.
Il y a des personnes qui utilisent le mot de survivante, ouais, plutôt que de victime.
Ouais.
Je trouvais ça, enfin ouais. Ça m'intéresse le fait qu'on utilise d'autres mots victimes, je trouve, effectivement.
Carrément. Après, je pense que Despentes, ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve qu'elle est assez subtile. je pense qu'elle nie pas en fait qu'on soit aussi qu'on ait envie de prendre ce statut de victime. C'est juste le fait que ce statut de victime il soit imposé en fait, qu'il soit imposé comme silencieux.
C'est important de le préciser, mais voilà.
Enfin comme voilà, c'est ça. Je pense qu'il est, enfin elle est en nuance en fait là-dessus. Je trouve qu'ailleurs elle est en nuance dans plein de trucs et que on la taxe de misandrie, de plein de choses, alors que en fait quand tu lis vraiment ses textes, c'est pas le cas quoi. Enfin, je trouve que justement par rapport à la question de la misandrie, enfin là je m'éloigne complètement de ce que je voulais dire, mais elle dit que le système, l'ordre, enfin des genres quoi, et les clichés de genre, ce qu'on attend des hommes et des femmes, ça fait, enfin les hommes le subissent aussi quoi. Enfin, elle parle dans King Kong Theory des hommes qui ont pas envie d'être virils, des hommes qui ont pas envie d'être protecteurs, qui ont pas envie d'être forts, courageux. Et du coup, je trouve qu'elle n'est pas du tout misandre, quoi, en fait. Voilà, bref. Et donc, il y a la scène du viol de Manu, donc au chapitre 8 dans Baise-moi. Et en fait, après, ça s'enchaîne très vite, parce qu'au chapitre 9, donc Nadine tue sa colocataire Séverine, qui est un peu un modèle de la femme avec un grand F, enfin, femme soumise, etc. Et au chapitre 10, Manu, elle tue Moustaphe, donc pour venger son ami Radouane qui s'est fait tabasser par lui. Bref, du coup, il faut que je fasse vite, donc j'ai rien dit de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave.
Sinon, tu sais quoi, si jamais on a genre une minute, on y revient après la chronique de Mathilde.
Ouais. On va passer à la chronique de Mathilde, j'ai déjà beaucoup parlé.
on va refaire un point en off.
Ouais.
Bon, du coup, ouais, je passe la chronique de Mathilde et puis on se retrouve juste après.
Parler de cinéma et d'imaginaire de la violence des femmes, c'est évoquer un certain nombre de figures qui ont constitué l'essentiel de la culture cinématographique populaire. De l'ère de la blaxploitation des années 70 à l'Hollywood réaganien, l'industrie cinématographique a mis en vedette une ou plusieurs femmes particulièrement violentes à l'écran. De Foxy Brown à Ellen Ripley en passant par Sarah Connor, les personnages de femmes physiquement violentes se retrouvent généralement portés par certains genres cinématographiques auxquels les spectateurs peuvent être largement habitués et relativement peu choqués puisque conformes au cinéma de genre et difficiles à surprendre puisque les recettes de ces films ont du mal à évoluer. Qu'il s'agisse de films d'exploitation, comme Foxy Brown, de cinéma d'horreur, comme Alien, ou de cinéma d'action, comme Terminator, le cinéma de genre ou de divertissement est sans doute le plus commun lorsque l'on évoque des personnages féminins autant badass que leur équivalent masculin. Quelques années se sont maintenant écoulées entre la sortie de ces films et notre époque, mais la représentation de la violence des femmes au cinéma a-t-elle pour autant évolué ? Donc sachez bien sûr que le temps et les connaissances me manquent pour répondre exhaustivement à cette question, c'est pourquoi j'ai choisi de parler d'un réalisateur et d'un film que vous connaissez sans doute toutes et tous, et qui pour moi est tout à fait systématique lorsque je pense au terme général de la violence au cinéma. Je veux bien sûr parler de Quentin Tarantino. Donc il m'est inutile d'évoquer sa filmographie pour que l'on comprenne que la violence, exercée par tout type de personnage et exprimée sous toutes ses formes, à toute époque et en tout lieu, est tout à fait centrale et omniprésente dans l'œuvre du très célèbre réalisateur. Fidèle héritier et adorateur des genres et sous-genres cinématographiques qui ont porté les figures de femmes violentes dont je vous parlais précédemment, il est aussi du genre à faire revivre les grandes heures des films d'exploitation, particulièrement ceux de la blaxploitation, de films de série B, de grindhouse ou de slasher, souvent remplis de personnages féminins. Très mal représentés d'ailleurs. C'est par exemple le cas de Jackie Brown, hommage au Foxy Brown de Jack Hill, sorti en 1974 et reprenant la même actrice, Pam Grier, icône majeure, sexy et sanglante des films de l'âge d'or de la Blacks. C'est aussi le cas du film Kill Bill et de son irréductible et sans pitié héroïne, la tueuse à gages Béatrice Kiddo, alias Black Mamba, faisant franchement la misère à quiconque se trouve sur son passage. Enfin, plus récemment il y a, celui dont je parlerai dans cette brève, le non moins connu Boulevard de la Mort, histoire vengeresque d'un groupe de femmes lancées à la poursuite d'un cascadeur psychopathe et récidiviste, dont la chair finira collée au poing et au sentiaque de nos héroïnes non moins violentes. D'abord, je pense que toute femme s'est dit à la sortie du film « Enfin !» Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film avec autant de personnages féminins et aussi violents et vengeresques dans leur manière de faire. Pourtant, il me semble aussi que notre cher Quentin ne se soit que partiellement mouillé quant à la déconstruction d'un certain nombre de stéréotypes de genre. Élaborer un scénario où des personnages par antagonisme aux stéréotypes que l'on attend ne suffit pas, selon moi, à produire un résultat d'ensemble aussi novateur quant à ce qu'il cherche à déconstruire. Je pourrais pas lui reprocher le choix de s'inscrire en filiation au cinéma de genre que l'on connaît, puisque son œuvre entière relève de l'hommage et de la référence. Mais peut-être aurions-nous été plus surprises de voir des personnages se déployer dans un cadre moins attendu que les films dont la recette est avant tout la sexualité et la violence. À l'exception peut-être d'en faire un objet totalement affranchi de stéréotypes, ce dont d'ailleurs Tarantino se revendique. Et ce qui n'est pas impossible, en soi. Pourtant, là est l'ambiguïté du réalisateur et du film. Hommage au film dont il revendique l'appartenance d'une part, intégration et exploitation de la culture féministe populaire d'autre part. Ce qui pose problème dans le film, selon moi, même s'il m'a plu en ce qu'il a de jouissif à voir des nanas défoncer un homme, c'est que je n'ai pas réussi à voir ce que les personnages avaient finalement de femmes en elles. Il s'agirait plus en fait d'une transposition d'attributs masculins à des corps féminins, ce qui en soi réduit considérablement l'empowerment et la dimension radicale et politique qu'auraient dû avoir les personnages, si je me base sur ce que pense dire et montrer Tarantino à travers le film. Beaucoup de dialogues entre les filles, tournent autour de bagnoles, de films d'action, de flingues et de leur sexualité, de manière totalement normalisée, mais du coup selon moi neutralisée, ou du moins faisant barrière à tout discours profondément féministe. Tarantino, du coup, nous montre finalement une violence des femmes qui n'est que la transposition d'une violence au procédé typiquement masculin, ce qui ne fait pas de ce film une exception sur le sujet. C'est en fait, en gros, c'est un mélange entre l'image mainstream que l'on a de la féministe moderne, sexy, indépendante et insoumise, et l'image de la femme violente qui est finalement un homme violent comme les autres. Certes, cela peut nous rapprocher des personnages que l'on a aimés au cinéma en tant que femme, comme Ellen Ripley ou Sarah Connor, mais en rien ces représentations ont évolué, en tout cas dans le cinéma de Tarantino. Le film revient pour moi à représenter une violence des femmes en inadéquation avec l'image qu'il souhaiterait renvoyer des femmes au public.
Vous êtes de retour sur J'enrage. Alors, on va aller très vite en fait parce qu'on est en retard. Du coup, je vous passe une musique des Orageuses qui s'appelle Vengeance et qui est passée dans un live à la Péniche en novembre 2015. Voilà, voilà. Tu voulais dire un truc, Julia ?
Oui, c'est... elle passe le 7 mai, elles seront à Lille au CCL. Les Orageuses, voilà.
Ok, voilà.
J'en ai fini de me faire du mal. Je veux blesser les responsables. Vous qui me crachez dans la face tous vos vices. Cette nuit, ce soir, je reviens avec mon poignard. Le cran d'arrêt est bloqué. Je suis prête à vous faire payer toutes vos dettes, à vous faire saigner. Avec un grand poignard, j'ouvrirai ton corps avec mes lames de rasoir. Je parcours en profondeur chaque parcelle de ta peau. Tombera en lambeaux parce qu'il est temps que la douleur qui me saigne atteigne ton cœur. L'anesthésie ne guérit pas les plaies que seul le temps peut soigner. Ouais, si tu sais l'utiliser dans leur bon sens, moi j'ai creusé encore jusqu'à ce que la douleur se fasse ressentir dans chaque battement de mon cœur, jusqu'à devenir froide et vide comme la mort, jusqu'à ce que ma nuque baissée ne puisse plus se redresser. J'ai traîné les pieds, j'ai fini par me coucher six pieds sous terre. J'ai prié pour qu'on vienne me chercher. Imbécile, innocent, ceux qui profitent et qui s'est perdu. J'ai choisi d'errer comme un spectre, mais je marche dans vos rues. La culpabilité ne m'atteint plus. Je me suis pendu à mes rêves et même si j'en crève, je serai fière le jour de mon salut. Je suis prête à prendre sur moi toute la colère du monde. Mon corps saccagé et ventré accueille la rage profonde de créatures immondes, de monstres qui pourrissent, viennent en moi, me nourrissent, me parlent et me guérissent. Mes entrailles n'abritent pas un petit ange déchu, ni les failles d'une petite fille en pleurs et qui s'est tue. Je suis écartelée.
vous êtes toujours avec Jean Rage et... Oups, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Alors on va aller très vite, on va pas faire de retour sur ce qui a été dit juste avant parce qu'on n'a pas le temps et on sait c'est frustrant, mais c'est frustrant pour tout le monde. Tout de suite on passe à la lutte armée. Julia, je te passe la parole.
Oui, alors moi je viens vous présenter un groupe qui s'appelle les Rotezora, qui est un groupe... armée révolutionnaire et féministe, non mixte, allemand, des années... Ils ont commencé à se créer dans les années 77, voilà. Donc en 1977, dans un contexte de répression et d'arrestation et d'assassinat de militants et militantes politiques, la RAF, la Fraction Armée Rouge, les RZ, c'est-à-dire les cellules révolutionnaires, et donc Rotezora commence à s'organiser dans la lutte armée en RFA. Donc l'Allemagne n'est pas réunifiée, elle est profondément anticommuniste, elle veut s'imposer au niveau international et débloque des fonds importants pour surveiller et punir les militants politiques radicaux. Et surtout ceux et celles qui utilisent des armes et des bombes incendiaires. Alors les RZ, leur cible d'attaque principale est anti-impérialiste, anti-sioniste et soutient les luttes des travailleurs et de femmes et de jeunes. Ils sont aussi dans le soutien aux luttes autonomes, aux mouvements sociaux qui ont lieu en Allemagne, en RFA, et aux révoltes internationales. Ils et elles refusent la hiérarchisation des luttes et des modes d'action, soulignant que les attentats n'ont de sens qu'intégrés à de larges luttes sociales. Alors dès le début, les RZ, donc les cellules révolutionnaires, ont aussi affiché clairement des actions antisexistes qui étaient portées par des femmes des cellules révolutionnaires. C'était signé dans les communiqués comme ça. Donc juste pour citer, en mars 1975, il y a eu une action à la cathédrale de Bamberg qui a été incendiée en réponse au rôle de l'Église dans l'oppression des femmes. Et un peu plus tard, une bombe qui a été déposée au tribunal constitutionnel après le rejet de la réforme de l'article 218 sur l'avortement, qui a été déclarée anticonstitutionnelle, donc l'avortement interdit, quoi. D'ailleurs, apparemment, c'est toujours le cas en Allemagne. L'article 218 est toujours en vigueur. Ils ont juste fait un amendement pour autoriser l'avortement jusque 3 mois. Voilà pour la petite histoire. Alors 2 ans plus tard, comme souvent dans les mouvements radicaux anti-hiérarchiques, et à nouveau plutôt des femmes des RZ font le choix de se séparer en créant leur propre cellule qu'elles nomment Rotezora. Alors l'organisation de femmes en non-mixité est plutôt courante déjà à cette époque, hein, donc on est quand même là en 1979 environ. Et leur nom, mais par contre le fait qu'elles pratiquent la lutte armée, ça c'est beaucoup moins courant, il faut bien le dire. Pour toutes les raisons que Diane a pu citer en introduction, d'ailleurs. Leur nom vient juste d'un livre de Kurt Held qui s'appelle Zora Larousse et sa bande et qui raconte les aventures de Zora, une gamine qui vit dans les ruines d'un château avec d'autres enfants des rues. Alors, les Rotezora se démarquent par un féminisme radical qui ne parcellise pas leur engagement. L'antipatriarcat est partie prenante d'une lutte totale contre le capital. Les genres et leurs rôles sont abordés comme les éléments d'un mécanisme structurel. Et juste pour finir sur les Rotezora, je vais citer un de leurs communiqués. Alors, elles ont écrit des articles dans un journal qui s'appelle RZ et qui était édité par les cellules révolutionnaires. Et donc ça, c'est la dernière page, en janvier 81. Le livre que je vous conseille de lire, précieux, qui m'a aidé à comprendre et à réaliser que la lutte armée non mixte féministe existait, c'est « En catimini, histoire et communiqué des Rotezora ». Et les éditions... elles ne sont pas notées. C'est vraiment pratique. C'est un livre noir avec une couverture dorée.
On donnera les références sur le site.
Désolée. Du coup, vous devrez trouver les références par vous-même. Alors, l'extrait que je vais vous lire, c'est un extrait où elles font le lien, en fait, sur leur engagement. Alors, dans notre société, la libération est en lien avec la destruction. Celle des structures qui veulent nous enchaîner au rôle de femmes. Et ces structures ne se laisseront détruire que si nous attaquons les rapports qui veulent nous détruire. Attaquons-les sous les formes les plus diverses, mais toujours liées à notre irréconciliable haine de cette société. La forme armée de l'attaque est, pour nous, une part du mouvement féministe à laquelle on ne peut renoncer. Cette position est, comme nous l'avons expliqué, à peine présente dans le mouvement féministe. C'est pourquoi nous nous sommes organisés dans la guérilla avec des hommes. Mais l'opposition entre lutte des sexes et lutte des classes n'y est pas non plus résolue. Notre statut en tant que groupe autonome de femmes à l'intérieur des RZ, cellules révolutionnaires, est déterminée par la situation politique actuelle des femmes, qui se caractérise par une faiblesse de contenu du mouvement féministe et une organisation de la militance par les femmes qui ne se trouve qu'à ses prémices. Voilà. Donc ça, c'était janvier 1981. Voilà pour la présentation de ce collectif. Je te laisse la parole, Anaïs.
D'accord. Alors, moi, je vais vous parler des femmes militantes dans le domaine politique qui ont créé ou intégré des groupes militants. Donc, d'abord, je vais vous parler des suffragettes. Donc, au sein de la société britannique des années 1900, les suffragettes sont un groupe de femmes militantes créées par des femmes pour les femmes dans le but de revendiquer leur droit de vote au Royaume-Uni. Donc, c'est en 1903 qu'Emmeline Pankhurst et ses deux filles sont rapidement soutenues par un petit groupe de femmes militantes et fondent les suffragettes. Donc, le groupe féministe s'inscrit rapidement dans un mouvement politique décrit comme violent. Leurs actions pour faire valoir leurs droits font subversion dans l'art de militer chez les féministes. Donc, au travers de nombreux combats, elles vont marquer les esprits grâce à la violence et parfois même susciter la sympathie d'une partie du public. Donc, par exemple, j'ai des exemples de combats qu'elles ont menés. Donc, en 1905, Christabel et Annie Kenney, deux suffragettes, sont arrêtées pour avoir crié des slogans en faveur du vote féminin lors d'une réunion politique du Parti libéral. Donc, elles choisissent la prison plutôt que de payer une amende pour être libérées. Donc, elles brandissent des slogans en faveur des droits des femmes lors des discours politiques. Elles brûlent des institutions. Elles ravagent d'autres lieux comme des églises. Elles détruisent des terrains de golf uniquement réservés aux hommes. Donc, les suffragettes mènent des actes provocateurs et contre la bienséance qui domine le mouvement suffragiste britannique. Donc, ce sont des femmes qui se mettent en danger à chaque combat mené. Elles instaurent des grèves de la faim en prison. Certaines d'entre elles, lors des actions militantes, meurent, comme c'est le cas d'Emily Davidson. Donc, je vais aussi vous parler des femmes militantes qui ont intégré des partis militants comme Action Directe, qui est un parti militant développé dans les années 1960 dans les pays industrialisés occidentaux. Il y a environ 10 femmes qui ont intégré ce parti. Et lors des jugements, je voudrais vous parler du coup du jugement médiatique qu'elles ont provoqué. Donc, autant pour les suffragettes que les femmes d'Action Directe. Qui ont été vite catégorisées comme étant des terroristes politiques et qui ont une réaction médiatique en conséquence de leurs actes. Donc, dans les buts de les discréditer, les médias vont relativiser leur engagement en les excusant par les sentiments en général. Donc, en émettant l'hypothèse que les femmes sont des êtres fragiles et sensibles, et donc remettre en doute leur motivation politique. Leurs actes de violence seraient dictés par des voix masculines, ce qui les relègue directement au statut de victime. Ensuite, les médias vont également stigmatiser l'acte de violence mené par les femmes en les masculinisant, pardon, ou les féminisant, entre guillemets, comme bon leur semble. Donc les femmes engagées dans l'armée, par exemple, sont des femmes héros qui se battent comme des hommes, tandis que les femmes impliquées dans les activités d'Action Directe sont considérées comme trop violentes pour des femmes et sont à l'inverse décrites comme physiquement comme frêles, délicates, timides et surmenées en quelque sorte par les événements qu'elles ont subis, les événements violents qu'elles auraient commis. Donc leurs actes sont interprétés comme étant le résultat d'une folie passagère, entre guillemets. Voilà. Donc, pour conclure, on peut dire que la violence faite par les femmes est considérée comme gênante et improbable, gênante et improbable, tout simplement.
Merci beaucoup, Anaïs. C'était pas évident de clôturer cette émission avec juste 3 minutes pour parler. Si t'en es bien. Donc voilà, du coup, on va clore cette émission, hein, c'est la fin. Je crois que vous ferez ce que vous voulez de ce riche matériau sur violence et émancipation. Et en fait, je pense que je vais peut-être repréciser qu'on s'est beaucoup inspiré d'un livre qui est Penser la violence des femmes, dirigé par Colline Cardier et Geneviève Prevost. Et on se retrouve pour le deuxième volet le 3 avril, dimanche 3 avril.
Non, 6.
6. Aujourd'hui, on est le 6 mars et le mois prochain, ce sera le 3 avril. Ah,
le 3 avril pour donc un volet, cette fois-ci, encore sur la violence des femmes, mais cette fois-ci, sur, on va s'intéresser plutôt au regard porté sur la violence des femmes. Donc, du coup, on va parler contrôle du corps des femmes, catégorisation psychiatrique, etc. Tout ce genre de choses très, très alléchantes. Voilà. On skip tout de suite sur une chanson de Billy the Kick. Et puis, n'oubliez pas de guetter notre Facebook, hein, Facebook J'enrage, pour guetter nos petits podcasts. Et puis, bah, très bientôt, je sais que ça fait longtemps qu'on dit, mais très bientôt, le site sera disponible.
Voilà. Ciao.
Salut. Salut.
Je suis la killeuse du bois joli. Le roi est mort.
No more heroes.
la piqûre.